Ne vous inquiétez pas. Vous entendez, nous entendons des informations humainement parlant préoccupantes, sinon angoissantes. Que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la paix mondiale, dans le domaine économique, dans le domaine sanitaire, dans le domaine moral, dans le domaine religieux, théologique, spirituel, à tous les niveaux. Mais vous n'ayez pas peur. Je voudrais vous dire que plus que jamais, en ce moment, le mensonge que d'autres appellent la désinformation dans d'autres domaines, si vous voulez, hein, mais le mensonge règne dans notre monde. Donc, quand vous avez des informations, ne les prenez pas au premier degré. Certaines choses sont vraies, évidemment. Je ne prétends pas que tout soit faux. Si vous entendez qu'un train a déraillé à Brive, ce n'est pas forcément une désinformation. Mais vous êtes orthodoxe, c'est-à-dire admirateur, adhérent à la vérité. Et la vérité, elle n'est pas dans ces choses-là. Donc, prenez toujours du recul par rapport à toutes les informations, même celles qui vous semblent justifiées, anodines, qu'elles soient blanches, qu'elles soient rouges, qu'elles soient noires, qu'elles soient... Peu importe. Mais il y a toujours du recul pour savoir, pour essayer d'avoir, de demander à Dieu du discernement, savoir où est la vérité. Non pas pour la défendre, mais pour être dans la vérité. Nous, orthodoxes, la vérité ne nous appartient pas. Nous n'avons pas la vérité. Mais nous avons le devoir d'être dans la vérité, car il y a une vérité en toute chose. Et si vous avez cette attitude-là, elle doit s'exprimer par une confiance absolue en Dieu. Dieu pourvoit à toute chose. Si le but de notre vie est la prospérité matérielle ou intellectuelle, la prospérité humaine, nous ne sommes pas sûrs d'être tous exaucés. On n'est pas tous appelés à avoir la vocation de Bill Gates ou de d'autres, il n'est pas le seul. Mais plus humblement, si nous cherchons la vérité, si nous croyons que notre vie est un passage, qu'elle est une manifeste, que chacune de nos vies sont une manifestation de la gloire de Dieu dans le monde, malgré notre indignité personnelle. À ce moment, de quoi avoir peur? On va mourir à 25 ans? Et alors, est-ce que c'est une catastrophe? Ben, humainement parlant, oui. Les enfants ont besoin de leur papa et de leur maman de 25 ans. Mais au-delà de ça, la vérité, elle est que notre vie n'est qu'un passage, qu'une préparation. Donc de quoi nous inquiéter? Et pour le reste, pour demain, je prends cet exemple-là parce qu'il est particulièrement crucial, si vous voulez. C'est pour toute chose. Donc, n'ayons peur, n'aurons peur de rien et exprimons notre foi par cette certitude-là, par notre joie et notre confiance. C'est sûr que quand on reçoit ce qu'on appelle un pépin ou une tuile sur le coin de la figure, humainement parlant, il est normal de réagir et on peut être un peu choqué, un peu sonné, mais au-delà de ça, il doit y avoir une remise de nos personnes, une remise de notre âme en Dieu. Seigneur, que ton nom soit béni, ce que tu fais, et bien ce que tu permets, et bien. Donc n'ayez pas peur. Et lorsque nous sommes confrontés à des dilemmes, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes qu'il nous convient de régler, des positions à prendre, des décisions à prendre. Souvent, nous sommes aveuglés, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut choisir. Choisir le droit ou la gauche. Je ne parle pas de politique, là, je parle de... Il faut choisir du rouge ou du blanc. Il y a des choix à faire, et souvent, on ne sait pas ce qu'il faut choisir. On ne sait pas où est le bien, on ne sait pas ce qui convient le mieux. Et tous, plus ou moins, on dit, mais Seigneur, je veux faire ta volonté. Oui, mais où est-ce qu'elle n'est pas toujours facile à découvrir, la volonté de Dieu. Mais de cela, n'ayons pas peur non plus. C'est aussi une question de foi. Quand on a une décision à prendre, quand on voit pas clair, on ne sait pas ce qu'il faut faire, arrêtons-nous 30 secondes, 3 minutes, 3 heures. Il faut mieux 3 qu'une, mais il faut mieux 1 heure que 5 minutes. Et il vaut mieux 5 minutes que 30 secondes, vous comprenez? Arrêtons-nous devant nos icônes, puis remettons-nous à Dieu. Seigneur, éclaire-moi. Et en essayant d'oublier nos intuitions, mais nos goûts, nos envies, notre penchant naturel, si je puis dire, essayant d'oublier ça, oubliant toute analyse logique de la situation. Parce que souvent, dans des situations comme ça, il y a 50% pour, 50% pour autre chose. Allez, choisis. Mais oublions ça. Et devant Dieu, nous confions-nous simplement à lui et faisons nos choix. C'est-à-dire, décidons ça plutôt que ça. Et après, soyons fidèles. Si on fait ça, on est sûr que Dieu a présidé à notre choix, que l'Esprit Saint était là. Et si vous voulez que ça devient urgent, ça a toujours été urgent, mais plus que jamais, si vous voulez avoir en permanence ce charisme du discernement, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de manières de se présenter, je veux dire. Mais vous avez notamment, et je vais oublier les versets, vous avez dans le livre de la sagesse la grande prière de Salomon qui demande à Dieu la sagesse. Et dans votre prière personnelle, à un moment ou à un autre de la journée ou la nuit, c'est encore mieux, dites cette prière-là, il y a quoi? Il y a 30 versets. Ne la récitez pas comme on récite une prière automatique, mais mettez-vous avec Salomon, demandez la sagesse qui est le Christ en fait, mais demandez-lui cette sagesse et le Christ à ce moment-là viendra dans vos cœurs et vous aidera à discerner ce qui est, même si au moment où vous discernez, vous n'avez pas la conscience d'avoir discerné, c'est-à-dire vous n'êtes pas en toute sécurité, j'ai fait le bon choix. Mais quand on choisit, après, il faut être fidèle à ce qu'on a choisi. Mais n'ayez pas peur, mais surtout, ne vous laissez pas avoir par toutes les désinformations dans tous les sens et dans tous les domaines. Le diable, aujourd'hui, règne en semi-maître. Je dis en semi parce qu'il y en a un autre qui est au-dessus de lui, qui lui règne, mais dont il obstrue nos pupilles pour qu'on ne voit pas sa présence. Il règne, et sa manière de régner, c'est de troubler le trouble, la confusion, et il est le père du mensonge dans tous les domaines. Ne critiquons personne, il ne s'agit pas de juger les personnes disant c'est un menteur, non, c'est pas de cet ordre, c'est pas de cet ordre là, mais il y a un esprit malin, un esprit malfaisant dans le monde qui vient tout obscurcir et tout pervertir. Et nous, parce que nous sommes amoureux de la vérité orthodoxe, nous devons prendre notre recul par rapport à cela et de rendre ainsi grâce à Dieu. Pour qui sait à travers quoi le monde doit passer. Et si nous sommes aujourd'hui confrontés, plus qu'hier encore, et vraisemblablement moins que demain, nous sommes confrontés à la crise de la vérité, je veux dire, à la lucidité dans la vérité. Nous sommes participants avec le Christ à la lutte qu'il a menée pour nous, contre les forces des ténèbres, contre le diable. Et lutter avec lui, c'est être assuré d'avoir la victoire. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur. Même si quelquefois, on peut être tenté de dire s'il est possible que ce calice s'écarte de moi, et si quelquefois des gouttes de sueur tombent de notre visage sous forme de caillots, comme des caillots de sang, ceci n'est pas une contre-indication. Il est normal de connaître les affres d'une vie humaine qui se délite. Mais au-delà de cela, notre confiance et notre volonté de faire celle de Dieu doit prédominer et donner une joie, une paix encore plus grande. C'était celle que Saint Siméon nous annonçait à la Mère de Dieu lors de l'Hypapante que nous avons fêtée il n'y a pas tellement longtemps. Et ça nous est quotidien. Et puis la troisième chose, vous vous en doutez bien, c'est d'attirer votre attention sur l'évangile d'aujourd'hui. Et ce n'est pas sans lien avec le deuxième thème dont je vous ai parlé là tout de suite. C'est-à-dire que c'est le dimanche du fils prodigue, mais qu'on peut appeler aussi le dimanche du Père miséricordieux. En effet, quand le Seigneur invente cette parabole, ce qu'il vise, c'est non seulement le chemin qui doit être le nôtre, mais c'est le chemin de Dieu. C'est notre chemin, mais inverser le mouvement. Vous verrez, de même que ce fils prodigue abandonne volontairement et pécamineusement le paradis, la maison de son père dans laquelle il était, dont il jouissait de tous les biens, il quitte ce paradis pour aller dilapider son bien à l'étranger, et finalement à garder les porcs, comme vous savez. Mais il revient, il fait un retournement sur lui-même, il revient et retourne vers la maison de son père en se déclarant comme indigne de ce qu'il aurait dû être, de ce qu'il était toujours, comme son père lui fait remarquer. Et son père l'accueille immédiatement pour le ramener dans son paradis. Mais il y en a un autre qui a fait ça, évidemment d'une manière non pécamineuse, c'est-à-dire sans péché, évidemment. C'est le Christ. Et c'est lui qu'il montre aussi dans cet évangile-là. C'est-à-dire que le Christ a abandonné aussi la maison de son père, il a abandonné le royaume des cieux, il a abandonné la gloire qui est la sienne en tant que Dieu, pour se faire homme, pour venir dilapider les biens de son père, ou plus exactement donner les biens de son père à cette nature humaine pécheresse, ces femmes avec lesquelles le fils prodigue dilapider les biens de son père. Il vient donc dans notre nature, dans notre monde. Et là, il a faim aussi. Il a faim non plus cette fois-ci des caroubes que mangent les porcs qu'il est chargé de garder, mais il a faim de l'amour de celui qu'il est venu, de ceux qu'il est venu trouver. Il a faim de l'amour des hommes. Et là, assumant notre détresse et assumant notre déchéance, la déchéance de notre nature, en ayant faim, ce qui est tout un symbole, évidemment, il revient vers la maison du Père, vers la maison du Père. C'est-à-dire qu'après être mort, il ressuscite. D'ailleurs, c'est le terme que le Père utilise dans l'Évangile. Quand le fils aîné fait le reproche de festoyer pour le retour du fils prodigue, son père lui dit « Mais ton fils qui était mort, il est revenu à la vie, il est ressuscité. » Ce qui indique bien, ce qui signe en quelque sorte cette interprétation qu'il s'agit bien du Christ qui se décrit. Et finalement de tout homme qui en Christ, qui avec le Christ meurt et ressuscite en Christ. C'est cette réalité-là, ce mystère-là, que on est appelé à réaliser tout au long de notre vie. Vous voyez pourquoi ce n'est pas sans lien avec les mots par lesquels je vous ai précédé cette indication d'aujourd'hui. Tout notre carême, symbole de toute notre vie, va être cette prise de conscience de notre éloignement de la maison du Père, cette fin, comme la fin du Christ, non seulement de l'amour des autres, mais de l'amour de Dieu que nous avons perdu et que nous perdons à cause de notre attitude, pas simplement à cause de nos fautes morales, mais de notre oubli de Dieu, de notre préférence des choses humaines plutôt que des choses divines. C'est cet oubli de Dieu qui est notre catastrophe et qui nous écarte de lui. Et cet oubli de Dieu se manifeste à travers tous nos égoïsmes, à travers toutes les préférences de nous-mêmes, à travers toutes nos insatisfactions, à travers tous nos jugements sur les autres, à travers toutes nos frustrations, à travers mille autres choses qui font que à chaque fois c'est un repli sur nous-mêmes, et ce repli est un éloignement de Dieu. Et ne croyons pas que cet éloignement soit involontaire. Il y a au fond de notre cœur quelque chose qui nous pousse à le faire. C'est le règne du malin là aussi. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons, que nous pensons, que nous disons, qui sont de l'ordre du réflexe, du complexe, d'ordre psychologique, affectif, tout ce que vous voudrez, logique, etc. Oui, mais dans le fond de notre cœur, il y a quelque chose qui nous fait adhérer à cela, qui nous fait préférer finalement ce monde des déchus que le monde de Dieu. Et c'est le carême, un aspect du carême, c'est de reprendre conscience de cela et puis de dire maintenant ça suffit, j'arrête avec ces bêtises-là. Maintenant, il faut que je m'attelle à ce qui est essentiel. Il faut que je m'attelle à la communion, à la reconnaissance de la vie de Dieu en moi. D'où la nécessité de la prière, et notamment de la prière nocturne dans la mesure du possible, où on laisse tomber, on abandonne toutes nos réflexions logiques, nos prières, j'allais dire verbal, toutes nos prières récitées, si vous voulez, même les meilleures, pour essayer de se présenter simplement dans une attitude attentive et silencieuse devant Dieu, être à côté de lui, avec dans un premier temps, certainement sans même ressentir la joie, l'exultation d'être auprès de lui, parce que ce n'est pas de cet ordre-là. Mais dans notre foi, de savoir et de nous réjouir en espérance de sa présence et de son action, de son dynamisme en nous. Et prenant conscience de cela, la conscience, la vision de notre déchéance nous sautera petit à petit aux yeux. Avec la grâce que Dieu nous fait d'un certain aveuglement, où il nous permet de ne pas voir la profondeur de notre déchéance, sinon on ne vivrait pas. Mais Dieu nous permet une certaine illusion pour croire qu'on n'est pas si mauvais que ça, dans le fond. C'est encore une erreur. Dans le fond, nous sommes si mauvais que ça. Et c'est pas la peine non plus de nous morfondre et de nous flageller en disant « Ah là là, je suis mauvais, mauvais, mauvais ». Ça ne servirait à rien. Ça, il faut, on en prend plus ou moins conscience. Mais après, on se tourne devant Dieu et on ne se réjouit que d'une chose, c'est que Dieu est. Que Dieu est bon, que Dieu sauve le monde, que Dieu nous fait participer à sa vie. Et ça, c'est notre joie et notre réjouissance. Et après, notre condition pécheresse, nos péchés, si vous voulez, si nombreux, si multiples, si répétés, et si graves soient-ils, c'est peu de choses à côté de l'amour de Dieu. Mais cet amour nous est donné, il faut donc revenir à cet amour, il faut donc nous attacher à cet amour et oublier la condition dans laquelle nous sommes. C'est ça la démarche de la conversion, c'est ça le retournement intérieur, c'est ça l'attitude du fils prodigue qui, étant loin de son père, dit maintenant « Je retourne, je sais que je suis indigne, je ne suis plus digne d'être appelé son fils, mais je reviens. » Et après, le reste dépend uniquement du père. C'est le père qui, lui, décide de venir à l'au-devant de son fils. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une pression que fait son fils, mais c'est un libre choix de son père, tellement miséricordieux, qu'il guette le retour de son fils. Et dès que son fils revient, aussitôt, il lui redonne la robe d'immortalité, la robe de la vie éternelle, celle que nous avons reçue au baptême, c'est-à-dire nous revêt de la vie même du Christ. Il nous redonne à ce moment-là l'anneau filial, qui montre l'appartenance à la famille, qui montre que nous sommes les fils de ce Père-là. C'est ce que nous avons reçu au moment de la crispation par la force de l'Esprit-Saint. Et pour nous, il fait immoler le veau gras. Si les petites filles ne dorment pas, je peux leur expliquer en 30 secondes le veau gras. Vous savez, parce que je me souviens, quand j'étais petit, je me demandais ce que c'était que ce veau gras, moi, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Et on garde une image assez longtemps dans notre vie. Le veau gras, c'est tout simplement que dans les familles, on élevait, dans la basse-cour, on élevait, même dans le désert égyptien, on élevait un animal qu'on engraissait pour qu'un jour de fête, on puisse l'offrir pour un repas plus festif. C'est ce que dans nos pays, par exemple, on fait habituellement dans les fermes quand on engraisse un cochon ou quand on engraisse une oie, de manière à pouvoir la mettre à la disposition de ceux qu'on veut inviter pour un repas de fête. Et là, un veau gras, vous vous rendez compte, un veau, c'est quand même une belle bête. C'était donc le signe d'une très grande fête d'immoler le veau gras. Et c'est ce veau-là qui est l'image. Et ne surtout garder dans votre tête, dans toute votre, la pureté de vos pensées, le veau gras offert en sacrifice, immolé, c'est évidemment le Christ lui-même, qui est un de ces animaux, ou qui résume tous les animaux qui ont été offerts au sacrifice dans le temple de Jérusalem, qui a été immolé pour que la vie qu'on lui prend vienne sur nous, qui sommes morts, et qui, pour qu'elle nous ressuscite, eh bien, c'est ce veau gras qui est immolé et que le Père offre au Fils prodigue. C'est donc le Père éternel qui offre le Christ, son Fils, Jésus, à la mort et à la résurrection, qui ne serait rien s'il n'y avait pas son amour pour cela, l'amour du Fils pour cela, et de manière à nous communiquer la joie de la gloire de Dieu, de la vie même de la vie même de Dieu. C'est tout cela auquel nous initie cet évangile d'une part, mais aussi qui donne le ton, qui donne la direction, qui donne l'orientation que va être le carême, qui va nous amener effectivement à partager l'agneau ou le veau gras, l'agneau de Dieu, le Christ offert, ce que nous avons fait tout à l'heure aussi, parce que les temps s'imbriquent les uns les autres. Il y a un temps liturgique qui va durer 50 jours pour le carême, 40 jours du carême et la préparation, mais aussi les temps hebdomadaires, et il y a les temps journaliers. Tout ça, ça s'imbrique, mais c'est toujours la même réalité d'un passage d'un état à l'autre par la mort et par la résurrection. Donc ce carême va nous amener petit à petit à la menducation, à la réception de la gloire de Dieu à travers l'amour qu'il nous montre sur la croix, et la participation à la vie éternelle par la résurrection et la réception de l'Esprit Saint. Mais prenons aussi aujourd'hui la décision que cette évolution-là, que ce cheminement, que cet itinéraire ne soit pas simplement un temps particulièrement béni d'une cinquantaine de jours jusqu'à Pâques, ou 100 jours jusqu'à la Pentecôte, mais soit une étape pour reprendre la prochaine étape, et que toute notre vie aille d'étape en étape, d'échelle en échelle, d'escalier, de marche en marche, d'échelon en échelon, vers la participation totale par sa grâce à la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.